Chapitre 12. Je ne lui réponds pas, puis il me relâche. Je cours ainsi vers la droite quand j'entends des pas derrière moi. C'est l'un de nos ennemis. Il se met à tirer dans ma direction à plusieurs reprises. Heureusement, les balles ne me touchent pas. Je me cache derrière un arbre et je riposte. Il se cache lui aussi. J'attends que son arme soit déchargée, qu'il prenne la peine de la recharger pour le buter à ce moment-là, mais son arme ne semble pas vouloir s'arrêter.
« J'ai pas pour ordre de te tuer, rends-toi, ça nous fera gagner du temps !»
m'informe l'ennemi. « Dommage, parce que moi je vais te tuer !»«
On a crevé les pneus de votre voiture, vous pouvez pas fuir !»
Prévisible.
« Je ne comptais pas fuir !»« Tu gaspilles ton énergie, ton arme sera bientôt déchargée !»
précise l'assaillant. Tu peux la fermer, s'il te plaît. J'essaie de me concentrer pour pouvoir te trouer. Il tire dans ma direction et l'une de ses balles parvient à toucher mon épaule. Je lâche un gémissement de douleur. Ma veste est légèrement trouée et mon épaule saigne. Je me mords la lèvre. C'était ma veste préférée. Elle m'a coûté une fortune. Ça se voit pas, mais je roule pas sur l'or en ce moment. Je hurle en soupirant. Pendant quelques secondes, les tirs cessent. Il est en train de recharger son arme. J'en profite pour sortir de ma cachette et courir vers lui. J'arrive rapidement à sa hauteur. Il pointe son arme sur moi. Avant même qu'il puisse avoir le temps de bouger, je tire. Une balle en plein cœur. Il s'écroule. Il fallait pas toucher à ma veste. Je souris, puis je range mon arme à l'arrière de mon jean. Mon épaule saigne abondamment. Je me retiens de gémir. Je me remets en marche pour essayer de retrouver Amir et l'aider contre son adversaire, même si je sais qu'il peut se débrouiller. Je crains qu'il soit réellement parti sans moi. Il a toutes les clés en sa possession. Il n'a plus besoin de moi. Je suis perdue dans mes pensées quand je me cogne contre un torse musclé. Je dégaine mon arme, puis je m'aperçois qu'il s'agit d'Amir. Il n'est pas parti. Il m'offre un sourire en coin.
« T'es en un seul morceau ?»
ricane Amir.
« Évidemment. »
Son regard se pose sur mon épaule. Il contracte la mâchoire et fronce les sourcils. La balle m'a frôlé, mais c'est rien. Je préfère prendre les devants.
« Tu saignes, c'est pas rien. »
Je ne comprends pas pourquoi elle continue de faire semblant. Ils ont crevé les pneus de la voiture et il n'y a presque pas de réseau ici. Je l'informe.
« Quand j'arriverai à capter, j'appellerai Ayman pour qu'il vienne nous chercher. Retournons dans la cabane en attendant. »
Amir marche et je le suis. J'ai l'impression d'être à la traîne. Je passe mon temps à éviter de trébucher. Il finit par se retourner et il constate que je suis en difficulté. Il se dirige vers moi et attrape ma main d'un geste rapide. Ses doigts se retrouvent enlacés aux miens. Je le regarde furtivement. Il avance de façon déterminée tout en faisant attention à ne pas tomber à cause des branches au sol. Je remarque que ses cheveux ont légèrement poussé. J'aimerais faire un commentaire pour qu'il lâche ma main, mais je n'en ai pas la force. Nous pénétrons dans la maison. Je pars m'asseoir sur le lit tandis qu'il se met à fouiller les tiroirs de la cuisine. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Je le questionne.
« De quoi te soigner ?»
Je ne m'attendais pas à cette réplique. Je le regarde, gêné par la situation. « J'ai pas mal, laisse tomber. »
« Je te demandais pas ton avis. »
Il m'énerve à faire comme si mon état lui importait. Et pourquoi est-il revenu? Il aurait pu partir avec ses clés de merde et me laisser me faire tuer. La trousse à pharmacie est dans l'armoire. Il se dirige vers l'armoire, revient vers moi, armé de la trousse de premier secours.
Enlève ta veste et ton haut.
Exige Amir. Je peux me débrouiller. Il fronce les sourcils.
Je me demande si t'as des problèmes d'audition. Je me souviens toujours pas t'avoir demandé ton avis.
C'est à mon tour de froncer les sourcils. J'ai pas envie.
Je t'ai déjà vu totalement nu, ne fais pas ta timide.
Se moque Amir. Je lui lance un regard noir. J'enlève ma veste et mon haut et me retrouve en débardeur devant lui. Il sort une compresse et du désinfectant et soigne ma blessure. T'es pas obligé de faire ça. Je déclare.
Personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit.
Il sort un bandage qu'il noue autour de mon épaule. Une fois l'opération terminée, je remets mon col roulé percé à l'épaule. Je ne le remercie pas. Je n'en ressens pas l'envie. Il sort son téléphone de sa poche, puis il se dirige vers la sortie.
Je vais essayer d'appeler Aymen,
me prévient Amir en sortant. Après quelques minutes, il finit par revenir avec un petit sourire en coin. J'aime pas ce sourire.
Mes hommes vont venir faire le ménage et Aymen arrive dans quelques heures. Il a des obligations qui l'empêchent de venir plus tôt.
Je vais devoir me le coltiner encore longtemps. Ça m'agace. Je me relève du lit pour me diriger vers l'armoire. Amir me scrute avant de s'affaler sur le lit.
Je vais taper une sieste. S'il y a un truc, réveille-moi.
M'informe Amir en bâillant. Évidemment, dors sur le lit et moi, je dors où si j'ai envie de me reposer? Pas dans le même lit que lui. Il prend un oreiller qu'il positionne en dessous de sa tête, puis il ferme les yeux. Je m'assois au sol en m'adossant contre le mur. Je lutte intérieurement pour ne pas m'endormir, mais je finis par fermer les yeux. Quelques heures plus tard, maison Sam Ruiz, 22h25. J'ouvre les yeux difficilement, je constate que je suis sur quelque chose de non identifié. Je tâte autour de moi et je comprends en sentant un corps contre le mien. Amir. Un lit. Je suis dans le lit avec Amir alors que je me souviens de m'être endormie sur le sol, adossée au mur. Mais le pire, c'est que je suis couchée sur lui. Ses bras entourent ma taille tandis que les miens enlacent son cou, laissant ma tête sur son torse. Ce petit con semble dormir paisiblement. J'essaie de me dégager de son emprise pour me relever, quand je sens qu'il me serre plus fermement contre lui. Amir. Aucune réponse. Amir. Toujours rien. Dépêche-toi de te lever, espèce de profiteur de merde. Je crie. Évidemment. Il ouvre un œil et me regarde avec incompréhension. Visiblement, il est encore bien endormi. Quand il se rend compte de la position dans laquelle nous nous trouvons, il me lâche. Je soupire en quittant le lit, tandis qu'il y reste affalé. « Qu'est-ce qui t'a pris de me mettre sur le lit avec toi ?» Il affiche un sourire en coin.
« Tu préfères la vérité ou un mensonge ?»
se moque Amir. « À ton avis ?»
« Tu ne faisais que hurler mon prénom dans ton sommeil. Je me suis donc levé pour que tu fermes ta gueule et je t'ai balancé sur le lit. Gentleman que je suis, j'ai voulu me coucher par terre, mais tu m'as supplié de rester avec toi. »
Ricane-t-il. Je l'assassine du regard pendant que son sourire s'élargit. La vérité.
Je me suis réveillée, j'ai vu que t'étais pas bien installée. Je t'ai portée et t'es couchée sur le lit, puis je me suis couchée à côté de toi. Il était hors de question que je dorme sur le sol. Ensuite, tu t'es agrippée à moi comme si j'étais ta peluche et je t'ai laissé faire.
Aucune des deux versions ne me satisfait. Combien de fois il va falloir que je te répète que je ne veux pas que tu me touches?
T'es la première à m'avoir touchée. Je te rappelle que tu étais couché sur mon corps, agrippé à moi comme un koala,
précise-t-il en haussant les épaules. Pauvre type. Aymen arrive quand? Changeons de sujet. Il attrape son téléphone posé sur un côté du lit. Il le regarde et se relève du lit.
On bouge. Il nous attend sur la route.
Amir sort et je le suis. Je jette un dernier coup d'œil à la maison avec nostalgie. Il fait nuit dehors et on entend différents bruits qui ne m'inspirent pas confiance. Il marche toujours aussi vite et je suis encore à la traîne, ce qui m'insupporte. Un bruit suspect retentit. Je laisse échapper un léger cri. Amir se retourne vers moi et rigole.
« Tu crains les loups, c'est ça ?»«
Ne dis pas n'importe quoi. » Il affiche un sourire en coin.
« Pour te manger, ils devront d'abord me passer dessus. N'aie pas peur. »
me rassure Amir en m'adressant un clin d'œil. Il attrape ma main pour la serrer dans la sienne. Je soupire mais ne le repousse pas. Je n'ai pas envie de tomber ou de crier à côté de lui. Après quelques minutes de marche, j'aperçois les phares de la voiture d'Aymen. Je lâche la main d'Amir puis me dirige vers la voiture. Aymen m'adresse un léger sourire que j'ignore. Je l'entends soupirer. Amir monte côté passager et moi à l'arrière. Aymen démarre et joue les curieux.
« Vous avez trouvé ?»
questionne Aymen.
« Évidemment. »
fanfaronne Amir. « Et les hommes ?»«
Tous morts. »
Je ne participe pas à la discussion.
Elle ne m'intéresse pas.
Les autres sont sur la route pour venir nous débarrasser des cadavres. Ils seront là d'ici quelques minutes.
Préviens Aymen.
Parfait,
ajoute Amir en souriant. Je ferme les yeux en mettant ma tête contre la fenêtre.
Une heure plus tard, Villa Ben Khalif, minuit 5.
Vous êtes enfin de retour.
Mathieu vient nous accueillir en courant. Il me regarde, ne sachant pas comment agir avec moi. Je le prends dans mes bras. Il est surpris, mais il finit par me serrer contre lui. Il est bien la dernière personne que j'aimerais perdre.
Je suis content que tu m'en veuilles plus.
À vous, Mathieu. Je souris. Je m'ennuierais trop si tu n'étais pas dans ma vie. Je confesse.
Cesse de me regarder ainsi, Amir. Je suis désolée, mais ce n'est pas ma faute si t'es pas dotée de mon charisme naturel qui fait que personne ne peut m'en vouloir.
Se moque, mon ami. Je me retourne. Amir le fusille du regard pendant que Mathieu lui adresse un sourire malicieux. Amir s'apprête à attraper Mathieu par la gorge quand Aymen l'arrête en mettant une main devant son torse.
On a d'autres choses à faire, prévient Aymen.
Où est Ilyan? Dis-je, ne voyant pas le jeune garçon autour de nous.
Avec Maria. Il était plus en sécurité là-bas,
me répond Mathieu. Je hoche la tête.
Vous avez les clés?
Demande Mathieu. J'acquiesce.
J'ai allumé l'ordinateur. Allons-y.
Nous nous dirigeons tous vers le salon. Mathieu s'assoit face à sa machine pendant que nous prenons place sur les canapés en face.
Qui a les clés?
Amir ne répond pas et les balance au visage de Mathieu.
La jalousie te rend aigri, jeune homme,
ricane l'informaticien.
Ferme ta gueule et fais ce que t'as à faire.
Mathieu se retient de rire. Il sort les clés du sachet pour les brancher. On attend plusieurs minutes que celles-ci se connectent.
Sinon, c'était cool votre sortie? Vous avez brisé la glace?
Tente Mathieu.
Ferme-la.
Ferme-la.
Vous avez répondu la même chose en même temps. C'est que ça doit aller mieux, mais ce n'est pas la peine d'être aussi dur. Je voulais juste briser ce silence gênant.
Rétorque Mathieu. Après quelques minutes, le cryptogramme auquel j'ai été confronté apparaît. Il s'agit d'une suite de différents chiffres. 3, 1, 14, 7, 15, 1, 19. 3, 1, 14, 7, 15, 1, 19. Aymen est le premier à s'exprimer.
Ton grand-père ne pouvait pas juste écrire la localisation sur une feuille au lieu de faire un tel casse-tête?
Ça aurait été trop facile si la réponse avait été sous nos yeux dès le début,
précise Amir.
Mathieu, trouve ce que ça veut dire.
C'est toi le surdoué du groupe,
balance Aymen.
Dépêche-toi,
s'impatiente Amir.
Du calme, laissez-moi réfléchir,
ajoute Mathieu. Mathieu répète plusieurs fois à haute voix la suite de chiffres et les observe attentivement. Je ne suis d'aucune utilité, à part d'un soutien psychologique pour contrebalancer les propos d'Aymen et Amir qui s'amusent à lui mettre la pression en lui disant que c'est un faux surdoué.
Vous connaissez la susceptibilité de Mathieu, n'est-ce pas?
Il suffit de le vexer pour le motiver.
Je crois que j'ai compris,
dit-il d'un coup. On le regarde tous en attendant qu'il développe. Il tend sa main vers Amir.
Amir, feuille et stylo,
ordonne Mathieu. Amir hausse les sourcils.
Tu crois que je suis ton chien ou quoi? Va te les chercher toi-même.
Aymen, feuille et stylo.
Va te faire foutre, rétorque Aymen en lui faisant un doigt d'honneur. Je soupire et me lève pour donner à Mathieu ce qu'il veut, sinon il risque encore de nous faire attendre.
Merci, assistante.
Continue ainsi et je vais t'enfoncer ton stylo dans la gorge.
Oh, c'est bon, je plaisante,
rigole Mathieu.
Alors, c'est quoi?
S'emporte Amir. Mathieu inscrit une série de lettres sur la feuille. Puis il se tourne vers nous avec un grand sourire.
Chacun des chiffres ou des nombres inscrits représente une des lettres de l'alphabet. Indépendamment, ça ne veut rien dire. Mais ensemble, ça nous donne un mot.
Très intelligent, le grand-père Ben Khalif.
Le 3 représente le C, le 1 le A, le 14 le N, le 7 le G, le 15 le O, le 1, le A, et le 19, le S. On ne le quitte pas des yeux alors qu'il continue sa démonstration. Il part sur le navigateur web de l'ordinateur et y inscrit quelque chose, mais ce n'est pas visible car son corps cache l'écran. Il se décale avec un grand sourire. Cette fameuse puce se trouve dans le Kango. Nos regards sont rivés sur l'écran de l'ordinateur et nous y voyons une magnifique grotte. Elle est remarquable. Je n'ai jamais eu la chance de visiter une grotte, ça doit être unique et extraordinaire. Les derniers chiffres veulent dire AS, comme les initiales de l'Afrique du Sud. Elles se trouvent donc dans cette grotte nommée Grotte du Kango, située en Afrique du Sud. T'es vraiment un petit génie, jubile Eymen. Mathieu hausse les épaules. Je sais, personne n'en doutait. Naël me racontait souvent les voyages de mon grand-père. Il disait qu'il adorait faire des voyages humanitaires en Afrique et en Asie. Je comprends mieux la localisation. Confesse Amir. La grotte est gigantesque, ça pourrait prendre des années avant qu'on puisse retrouver la puce. S'alarme Mathieu. Je sais où elle se trouve. Précise Amir. On se tourne tous vers Amir. J'ai vu une photo de mon grand-père dans une grotte, plus précisément, dans une salle concrétionnée. Elle doit être à l'intérieur. Ça nous prendra pas énormément de temps si nous sommes quatre à la chercher. Mathieu pousse un hurlement de joie. Je viens aussi? Putain, je vais en Afrique du Sud. C'est génial. Faut que j'achète des maillots de bain et de la crème solaire. Crie-t-il avec excitation. Les deux hommes lèvent les yeux en l'air. On n'y va pas pour les vacances, mais pour récupérer la puce. Reste calme. Lui balance Amir. Tu n'y vas pas pour bronzer ou rencontrer des beaux mecs. Ressaisis-toi. Poursuit Eymen. J'esquisse un sourire amusé, mais Amir nous recadre. Préparez vos affaires. Nous partons demain soir. Quoi? Mais on n'a même pas pris nos billets. S'étonne Mathieu. On part en jet privé. Complète Amir comme si c'était logique. Mathieu lâche un nouveau hurlement de joie. La vie des gens riches est remarquable. S'il ne m'avait pas fait croire qu'il avait besoin de moi pour éviter les suspicions de la douane, on aurait sûrement pris son jet quand nous sommes partis en Italie. Putain, un jet privé! Je me sens comme une star qui part en concert. Je suis tellement heureux, c'est vraiment incroyable! Pouffe Mathieu. Il est surexcité. On dirait un gamin. Eymen met son bras autour de son épaule, puis ils montent ensemble à l'étage. Je me retrouve avec Amir qui se tourne vers moi. Je vais rentrer à mon hôtel pour préparer mes affaires. Je te raccompagne. Je suis venue sans ma voiture, je n'ai pas le choix. Quelques minutes plus tard, 1h32. Je descends de la voiture, suivie d'Amir. Mon regard s'arrête sur l'entrée de l'hôtel qui est fermée et plus particulièrement sur des sacs de voyage étendus devant l'hôtel. Ce sont les miens. C'est quoi ce bordel? Je me tourne vers Amir et le vois sourire. Il se doutait que je me ferais virer après son scandale ce matin. Il n'a pas insisté pour que je reste chez lui, car il savait qu'on finirait par revenir. Bâtard. Merde alors. Il t'a jeté dehors, je comprends pas pourquoi. C'est tellement difficile de trouver un hôtel digne de ce nom en plus. Se moque Amir. Il fait mine d'être surpris. J'ai envie de lui mettre mon poing dans la figure. Tu savais que j'allais me faire éjecter après que tu t'es permis de frapper le propriétaire.
Ça me peine que tu me croies capable d'autant de manipulations,
me répond-il en faisant semblant de s'étonner. Il affiche un air faussement vexé. Je me retiens de lui sauter dessus pour lui coller une bonne gifle. Il se dirige vers mes sacs, les attrape pour les balancer dans le coffre de la voiture.
Je ne vais pas te laisser dormir dehors. Allez, viens.
Ne me dites pas qu'il se fait passer pour le héros qui me sauve de la rue alors que c'est sa faute. Je me retiens de l'insulter, mais nous remontons en voiture. Je croise les bras autour de ma poitrine tout en le fusillant du regard.
Tu boudes alors que je t'accueille chez moi?
M'interroge-t-il en ricanant. Lâche-moi.
Je te tiens pas.
Rigole Amir. Pauvre type.
Tout à l'heure, j'ai dit que je te mentais pas. Pour te prouver que c'est la vérité, je vais t'avouer un truc.
Quand j'ai téléphoné à Aymen pour qu'il vienne nous chercher, j'en ai profité pour trouver le numéro du propriétaire de ton hôtel. Je l'ai contacté et je l'ai menacé de lui mettre une balle entre les deux yeux s'il ne te laissait pas tranquille. À mon avis, c'est pour ça qu'il a mis tes affaires à la rue. Tu devrais me remercier de t'éviter de fréquenter un tel endroit.
Je me tourne vers lui et le regarde, choquée. Il ne regrette pas une seule seconde ce qu'il a fait, et il en est même très satisfait. Il affiche un grand sourire qui dévoile toutes ses dents et ses fossettes tout en ancrant son regard dans le mien. Il ressemble à un gamin. Je te déteste, Amir.
Je ne te déteste pas, moi, poupée.